La Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive avait lieu il y a quelques semaines, le 13 mars, pour être plus exact. Et pour parler des outils qui existent pour avoir une santé mentale positive, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Marie-Josée Delisle. Bonjour, Mme Delisle.
Bonjour, M. Beauregard. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Vous êtes directrice de la campagne « Créer des liens » pour le mouvement Santé mentale Québec.
On est responsable de cette campagne-là, en effet.
Et on va parler de l'importance, justement, de créer des liens dans la vie quotidienne comme étant un autre outil, pour prendre soin de soi. On va dire ça comme ça.
Ben oui, tout à fait. Quand on fait des recherches, on se rend compte que créer des liens, obtenir du soutien social, c'est vraiment un facteur de protection pour notre santé mentale, surtout dans notre approche, nous, de santé mentale positive, c'est-à-dire où on va tendre vers un mieux-être affectif, psychologique et social, qu'on ait ou non un diagnostic, parce que la santé mentale, 100% des gens en ont une.
Oui, donc, voilà.
C'est la seule statistique dont je suis absolument certaine. 100% des gens ont une santé mentale. Puis on peut apprendre tranquillement à en prendre soin. Puis on peut collectivement aussi apprendre à prendre soin les uns des autres pour que notre société soit plus favorable à la santé mentale de tout le monde. Puis effectivement, les liens humains, l'être humain est une bébite fondamentalement sociale et ça peut nous aider à traverser la vie, évidemment, quand ce sont des liens qu'on dit positifs, là, qui sont bienveillants, qui protègent, qui respectent ou qui sécurisent. Bien, tout au long de la vie, ces liens-là vont nous accompagner puis vont nous permettre d'être plus solides à travers les épreuves.
Et ça va bien au-delà de d'autres considérations qu'on associe au bien-être, là, que ce soit la santé physique ou l'argent, la classe sociale, la célébrité, les habitudes de vie, ainsi de suite, ou la génétique. Il y a eu une étude, je pense, à laquelle vous faites référence, qui s'étend sur près de 80 ans, qui d'ailleurs a encore cours à l'Université Harvard. Qui a donné, c'est maintenant un livre qui a été publié cet hiver qui s'appelle en anglais « The Good Life » par le docteur Mark Schultz et le docteur Robert Waldinger. Et j'ai eu le plaisir de le lire. Et je voyais dans votre site que justement vous faisiez référence à cette étude-là. Qu'est-ce qu'on y trouve?
Bien, en fait, comme vous le mentionnez, c'est une étude qui a cours depuis des décennies. Donc, on suit des gens à travers les différentes étapes de leur vie depuis plusieurs années. Des équipes de chercheurs se succèdent pour continuer à effectuer le suivi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens dans l'étude qui bénéficient du meilleur soutien social, du meilleur réseau autour d'eux, on voit un allongement de leur espérance de vie.
Oh. Donc, la santé mentale a un effet à long terme sur la santé physique.
Bien, tout à fait. On est des êtres reliés. Hein. Notre santé physique, notre santé mentale, en fait, c'est une santé globale. Tout ça est attaché. Donc, tout ça a une influence, un sur l'autre, c'est bien évident. Mais oui, puis on se rend compte en contrepartie que non seulement les gens qui ont moins de liens n'ont pas cette même espérance de vie, mais l'espérance de vie se raccourcit. Donc, c'est pas seulement sans incidence, ça a complètement l'effet inverse.
Oh, d'accord. Ça veut dire que la carence de relations humaines, en fait, contribue à détériorer la santé. Là. C'est pas neutre. C'est pas
non,
que
c'est pas
bien
neutre,
d'en avoir, c'est que c'est essentiel, parce que si on n'en a pas,
c'est essentiel à la vie. Voilà.
Et ce qui était intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'âge pour développer des relations humaines. Je pense souvent à un pattern qu'on retrouve, les gens qui ont un cercle social relié à leur emploi, et au moment de la retraite, ils se retrouvent isolés à la maison, puis ils se pointent à la cafétéria de leur ancien employeur, mais éventuellement, il n'y a plus personne qui reconnaît. Et là, ils se sentent isolés, mais c'est pas fini la vie. Alors, on peut recommencer à créer des liens autour de soi en sortant un peu de sa coquille. Étude-là le démontre fort bien. Je voudrais qu'on revienne à votre campagne, parce que, Mme Delisle, parce que vous parlez de 7 astuces sur votre site.
En fait, on a réalisé il y a quelques années déjà une grande, grande revue de littérature pour essayer d'identifier c'était quoi les 7 facteurs de protection qui étaient le plus significatifs dans l'amélioration ou dans le maintien d'une bonne santé mentale. Et on les a traduits, rassemblés, on les a présentés comme étant 7 astuces, donc pour les rendre grand public. Et créer des liens est une de ces astuces-là. Donc, chaque année, on prend une des 7 astuces, puis à travers notre campagne annuelle, on va la développer de façon plus exhaustive. On va créer de nombreux outils autour de la campagne pour bien faire connaître, bien faire comprendre ce facteur de protection-là, comment on peut l'appliquer dans notre vie au quotidien, dans notre milieu de travail, dans notre milieu scolaire. Donc, on travaille avec les jeunes, avec les adultes, avec les milieux de travail, avec les personnes aînées. Donc, pour essayer de rendre ces facteurs-là accessibles à tous, puis de les utiliser dans notre vie de tous les jours. Là.
Exact. Puis on a accès à tout ça. Je pense que le site, c'est est-ce que c'est bien être bien dans sa tête.ca?
Être bien dans sa tête.ca. Tous les outils sont en ligne, sont téléchargeables. C'est entièrement gratuit. Et on a les outils qui sont liés à chacune des astuces qui ont été développées jusqu'ici. Donc, vous allez trouver les astuces agir, ressentir, découvrir, choisir, créer des liens. Puis, il nous en reste 2 à développer.
Se ressourcer.
S'accepter.
S'accepter, c'est une grosse astuce. C'est une grosse astuce, ça.
oui, c'est une grosse astuce, en effet. Mais on travaille avec des experts qui nous permettent de faire des belles découvertes. Puis de rendre ça super accessible pour les gens. Là, ça n'a pas besoin d'être compliqué.
Oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit déroutant. Si quelqu'un va sur votre site parce qu'elle ressent un malaise ou, disons, elle est dans une quête de mieux-être, ben, il ne faut pas que ce soit compliqué. Là.
On ne va pas faire un doctorat ici. Non, pas du tout. Pas du tout.
D'accord. Et alors, ce que vous me dites, c'est que déjà depuis quelques années, à chaque campagne, Un de ces aspects-là de la santé mentale est mis de l'avant.
Voilà.
Et ça crée toute une librairie parce que celles des années précédentes aussi, ce qui avait été développé les années précédentes est encore disponible sur le site.
Oui, tout à fait. Tout est encore disponible, accessible en tout temps. Donc, ça fait une belle médiathèque parce qu'il y a à la fois des outils qu'on peut lire, il y a des vidéos, il y a des capsules audio, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'outils accessibles pour plein de gens. Donc, tout ça est disponible, comme je le disais, là, sur le êtrebiendanssatête.ca, entièrement gratuitement. Il y a une tonne d'informations et d'outils pour prendre soin de soi.
Dans le cadre de cette campagne-là, est-ce qu'il y a d'autres actions, d'autres choses que pour essayer de rejoindre le public? Parce qu'on peut penser que des gens qui vivent une problématique de santé mentale peuvent avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce que si quelqu'un est proactif pour aller sur votre site, c'est une chose. Mais au sein des organismes que vous chapeautez, parce que vous êtes pan-québécois comme mouvement.
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a des actions qui permettent d'aller rejoindre les gens qui sont parfois moins proactifs?
Bien, chacun de nos groupes membres dans sa région, dans la région qu'il dessert, puis le mouvement partout ailleurs au Québec, on essaie vraiment d'être présent sur les réseaux sociaux, d'être présent dans les communautés, dans les organismes communautaires. On travaille beaucoup avec des partenaires, avec les municipalités. On essaie de faire rayonner cette campagne-là le plus possible pour qu'elle se rende jusqu'aux gens. Mais c'est sûr que c'est un défi de transmettre cette information-là. Mais on travaille très, très fort pour être le plus visible possible, le plus accessible possible. Puis chaque année, dans le courant de l'année, parce que notre campagne, on la lance à l'occasion de la Journée nationale de promotion de la santé mentale le 13 mars, mais elle vit après ça toute l'année durant.
Exact.
Et on a plusieurs moments forts, dont première semaine de mai, la Semaine nationale de la santé mentale qui a été initiée par l'Association canadienne pour la santé mentale. Bien, c'est un moment fort, c'est un beau momentum dont on peut se servir aussi pour rendre ce contenu-là encore plus accessible. Puis avec nos groupes membres de partout au Québec, on offre une programmation virtuelle.
OK.
Donc, qui est accessible gratuitement en ligne et à laquelle, via tous nos médias sociaux, notre infolettre, ben on essaie de donner accès à une majorité de gens, là.
Oui. Et donc, le prochain moment fort, ça va être la première semaine de mai, là. C'est quoi? C'est dans à peine un mois.
Voilà.
Et à ce moment-là, ben, on va pouvoir... Ce serait une bonne raison à nouveau de s'y arrimer, parce qu'en sortant de la pandémie, du confinement, c'est certain que la santé mentale est une urgence. Hein?
Oui.
Il y a eu des victimes. Il ne faut pas les laisser derrière nous.
Il y a beaucoup de gens qui disent que des études qui nous révèlent que la population aînée, entre autres,
oui,
a beaucoup plus souffert de l'isolement.
Exact.
Pendant la pandémie que du virus lui-même. Alors, créons des liens. Ça demande du temps, ça demande de l'ouverture, ça demande d'oser faire un petit pas vers l'autre.
Merci beaucoup, Mme Delisle. On se laisse là-dessus.